carrefour d'opinion. Carrefour d'opinion est une émission de la radio Inzamba qui donne l'opportunité aux gens de tous les horizons à présenter leurs opinions sur tous les secteurs de la vie nationale en vue d'une bonne résolution pacifique du conflit burundais. Carrefour d'opinion, bâtissons le Burundi.
Vous êtes branchés sur la radio Inzamba, Gatika Kawe, soyez tous les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'émission Carrefour d'opinion. Carrefour d'opinion, nous revenons sur les récentes tueries qui se sont observées dans certaines communes de la province de Bujumbura, Nyabirawa, Mubimbi et Kanyosha. Selon les sources policières, ces tueries ont emporté la vie d'une vingtaine de civils et de deux policiers. Les mêmes sources ont révélé que les victimes étaient les membres des groupes de malfaiteurs qu'il fallait à tout prix démanteler. Les organisations de défense des droits de la personne humaine ont déploré ce qu'elles ont appelé des exécutions extrajudiciaires dans la répression de ces malfaiteurs. Mais la grande question est de savoir si cette situation d'insécurité et de criminalité ne peut pas être un mauvais présage pour une bonne tenue des élections qui commencent au mois de mai prochain. Comme invité, nous aurons Pacifique Nina Azu, le président du FOCODE, le Fonds pour la conscience et le développement, et Frédéric Kibambunyuvira, vice-président de la coalition de l'opposition politique burundaise, Sefor Arusha. Nous écouterons également l'intervention de Pierre Mourikié, porte-parole du ministère de la Sécurité publique. À la réalisation de cette émission, Réveillé Vazikamwe, la mise en onde est assurée par Lambert Nyonzima. Au micro pour la présentation, c'est votre humble serviteur. Je m'appelle tout simplement Jean-Georges Kibogora. L'émission Carrefour d'opinion, c'est parti.
Inzamba.
Bienvenue encore une fois si vous nous rejoignez sur la radio Inzamba à Gateka Kawe. Une attaque des hommes armés intervenue en fin du week-end dernier dans les communes de Nyabirawa, Mubimbi et Kanyosha de la province de Bujumbura a fait 24 personnes tuées, dont deux policiers selon les sources de la police nationale. Le porte-parole de cette institution, Pierre Ngourikié, qui le confirme, ajoute que ceux qui ont été tués étaient des membres des groupes de malfaiteurs à démanteler.
Il y a eu des morts, des armes qui ont été saisies. À côté des saisies, il y a eu aussi des morts et des blessés. Il y a eu au total 22 morts, dont un homme, un professeur dirigé de Maranatha qui s'appelle Bosco, qui était apparemment à la tête de ce groupe. Si nous déplorons aussi la mort de deux policiers qui sont morts sur le champ en train d'éradiquer, de démanteler ce groupe. Et il y a eu aussi deux autres policiers qui ont été blessés. Et il y a eu arrestation de six parmi les criminels. Si on analyse tous ces cas de criminalité, ce groupe de criminels qui a été démantelé dans Bujumbura, dans la province de Bujumbura, on constate qu'en réalité, il y a un lien entre tous ces cas. C'est qu'en réalité, des criminels profitent du détournement de l'attention de la population qui est maintenant dirigée vers les élections en vue et profitent de ce détournement de l'attention pour pouvoir commettre les différents crimes.
C'est un simulacre d'attaque concocté par le régime en place qui a eu lieu, constate le FOCODE, le Forum pour la conscience et le développement, qui accuse les agents de l'ordre d'avoir fait des exécutions extrajudiciaires dans la répression des malfaiteurs. Pacifique Nina Azoué, c'est le président du FOCODE.
Je dois signaler qu'avant cette attaque, nous avions reçu beaucoup d'informations qui disaient que le pouvoir était en train de fomenter un groupe armé qu'il allait imputer au parti CNL, le parti d'Agathon Rwasa, afin d'empêcher la candidature d'Agathon Rwasa et probablement aussi la participation du parti CNL aux élections, aux prochaines élections de mai 2020. Lorsque l'attaque a commencé, nous avons rapidement reçu des messages audio des Imbonerakure, des agents du service national de renseignement qui disaient qu'il s'agissait d'une attaque des éléments du parti CNL d'Agathon Rwasa. Mais curieusement, lorsque nous avons commencé à voir les images et lorsque nous avons commencé à identifier certaines personnes sur ces images, nous avons appris qu'il s'agissait principalement des miliciens Imbonerakure, mais aussi de certaines autres personnes proches du parti au pouvoir. Ce qui signifie que cette attaque corrobore finalement les informations que nous avions reçues précédemment et que c'était un mouvement probablement créé par le régime pour ternir l'image des adversaires politiques et probablement pour les nuire. Nous pouvons confirmer que ce qui s'est passé dans ces communes de Bujumbura sont des exécutions extrajudiciaires. Parce que dans un côté, nous avons des images des personnes qui ont été arrêtées, qui étaient ligotées, donc qui étaient dans les mains des forces de l'ordre et des miliciens Imbonerakure, mais aussi de l'administration. Et d'autre part, nous avons des images des mêmes personnes qui ont été tuées de manière horrible. On voit qu'ils ont été tabassés, certains ont été poignardés, il y en a probablement qui ont été étranglés. Le fait que des personnes ont été arrêtées, le fait que ces personnes ont été dans les mains de l'administration et des forces de l'ordre, et qu'à la fin ces personnes ont été tuées, c'est justement cela, une exécution sommaire ou une exécution extrajudiciaire. Une exécution extrajudiciaire, c'est quand on tue des personnes arrêtées sans les faire passer par un jugement à travers une juridiction officielle connue, et c'est aussi sur le fait de leur appliquer une peine qui n'est même plus prévue dans la loi burundaise. La peine de mort n'existe plus dans la loi pénale du Burundi. Les personnes n'ont pas été jugées. S'il pesait des soupçons d'avoir commis des crimes, mais ils ont été tués, jugés par des instances qui ne sont pas judiciaires.
Certaines figures ont été reconnues, entre autres un enseignant du lycée Maranatha. Est-ce que vous aurez mené des enquêtes pour en savoir plus?
Je voudrais dire d'un côté qu'il y a les propos du porte-parole de la police, Pierre Kourikiye, qui a déclaré que parmi les morts, il y avait sept enseignants du lycée Maranatha à Kivoga. Nous avons mené notre enquête et nous avons découvert qu'il s'agissait de Jean Bosco Minani, qui est un directeur d'internat dans une école installée au sein du lycée Maranatha de Kivoga. C'est un proche du parti CNDD-FDD. Il fait partie d'une branche de l'église adventiste du septième jour. Vous savez que cette église a connu une dissension ces derniers temps et qu'une branche de cette église est reconnue par le ministre de l'Intérieur et qu'une autre n'est pas reconnue par le ministre. Alors, celui qui a été tué fait partie de la branche pro-CNDD-FDD qui est reconnu par le ministre de l'Intérieur. Donc, quand le porte-parole de la police dit que cette personne a été tuée, alors que nous avons les images quand cette personne était arrêtée et ligotée parmi les autres victimes, cela signifie que le directeur d'internat est lui-même victime d'une exécution extrajudiciaire. Je voudrais aussi ajouter les propos de l'administrateur communal de Nyabiraba, qui lui aussi avait déclaré dimanche qu'au cours de l'attaque, 12 personnes avaient été tuées et que 2 autres seulement avaient été arrêtées. Or, les images de Nyabiraba montrent plus d'une dizaine de personnes qui avaient été arrêtées et on a envie de lui poser la question, mais que sont devenues la dizaine d'autres personnes s'il n'en restait que 2? Alors, cela signifie justement que toutes ces personnes n'ont pas été tuées pendant les combats, mais plutôt qu'elles avaient été arrêtées et exécutées, que cela constitue des exécutions extrajudiciaires. Je trouve que les propos de Pierre Kourikiye et les propos de Ferdinand Sibananiye sont des preuves, justement, des crimes horribles commis par le pouvoir dans les communes de Bujumbura rural.
Cela signifierait, selon vous, qu'il s'agit d'un plan du régime?
C'est un plan du régime. Ce qu'on ne comprend pas jusqu'ici, c'est la raison qui aurait amené le régime à tuer ses propres éléments, à tuer des miliciens Imbonerakure qu'il a recrutés, à tuer d'autres proches de pouvoir qu'il a amenés sur le terrain. Alors la question est de savoir, est-ce que ces gens ont échoué à leur mission et le régime a été obligé de les éliminer pour éviter que la vérité éclate au grand jour? Nous ne savons pas la raison pour laquelle ces personnes ont été tuées alors que ce sont des gens proches du pouvoir et selon les informations à notre disposition, c'est des gens qui avaient même été payés par le régime. Alors on se pose encore les questions, pourquoi ont-ils été tués alors que ce sont des gens du pouvoir?
Il serait tué peut-être pour avoir la raison d'arrêter les membres du parti CNL.
Alors, possible que c'est pour à la fin arriver à arrêter des gens du parti Sénégal, parce que justement il y en a pas mal qui ont été arrêtés après les combats, mais les militants du Sénégal ne sont pas arrêtés sur le terrain de bataille, ils sont arrêtés dans leur famille et chez eux, à leur domicile. Et ici je donne l'exemple de Félix Ndikuriyo de la commune de Mouimbi, qui a été arrêté avec pas mal d'autres militants du parti Sénégal, qui a été tabassé jeudi le 20 février et qui est finalement décédé à la suite des coups reçus dans un cachot de Mouimbi. Et malheureusement, alors que la famille exigeait qu'on lui donne le cadavre de Félix Ndikuriyo, des miliciens Imbonerakure se sont empressés à l'enterrer sans la famille de la victime. Donc ça, c'est un exemple. Il y a pas mal d'autres qui ont été arrêtés dans leur famille et qui sont détenus dans plusieurs cachots de prison. Certaines familles continuent d'aller la chercher où se trouvent les leurs. Donc, comme vous dites, il est possible que l'attaque qu'on a tué ces personnes pour finalement arrêter des militants du parti Sénégal. Il est aussi possible qu'on les a tués parce qu'ils auraient échoué dans leur mission et que le pouvoir ne veut pas que ces gens témoignent sur ce qu'ils savaient, que la vérité éclate au grand jour.
Frédéric Bambouignou-Villa pense que ce qui s'est passé est une manifestation de la peur du parti au pouvoir CNDD-FDD dans les élections qui approchent.
On observe une violence entre les partis CNDD, FDD et le parti CNR. Pourquoi? D'abord, le conflit entre le CNDD et le CNR ne date pas d'hier. C'est un conflit qui date d'un temps et aujourd'hui, ils prétendent justement, ils cherchent à avoir des voix, ils ont des militants, ils cherchent sur le même terrain. Les uns disent sont des Bahoutous, les autres disent sont des Bahoutous, ils veulent chasser sur le même terrain et ça crée effectivement un conflit évident parce que le CNDD-FDD qui a le monopole de la violence comme le parti État, on voit qu'il met tous les paquets pour que justement il décourage le CNR en tuant les représentants du CNR, en maltraitant les militants du CNR, en les emprisonnant, en les blessant. Donc, c'est une situation qu'on observe à travers tout le pays. Figurez-vous que c'est à travers tout le pays. Et on peut se poser la question, pourquoi ce comportement? Tout simplement parce que le CNDD-FDD a peur de perdre les élections. S'il n'avait pas peur de perdre les élections, il laisserait toutes les formations politiques aller sur le terrain, y compris le CNR, pour qu'il puisse, lui aussi, s'expérimenter. Et maintenant, on constate un autre élément, ce sont les documents qui ont été proposés par la CENI pour être candidat présidentiel, législatif, au communal. Mais ce sont des documents très nombreux. Et on peut se poser la question, à quoi ça sert si ce n'est que justement pour avoir un document, d'abord c'est la même administration, le CNDD-FDD. Si la même administration constate que, quelque part, ils ont l'instruction de constater que le CNDD-FDD peut être battu, donc il va rendre difficile justement l'accès à ces documents. Et imaginez, j'ai entendu des militants de différentes formations politiques et du budget, qu'il y ait par exemple duplication des endroits où ils peuvent trouver le casier judiciaire. Ça a été fait, mais ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres documents qui sont exigés. Mais tout cela, pourquoi? Pour que justement les gens se prétendent sur l'élite et des difficultés à pouvoir trouver des documents nécessaires pour aller dans la campagne. Je crois que c'est ça, les filles qui montrent qu'en réalité, le parti au pouvoir est en train de baliser, de tout faire pour qu'il y ait sa soeur seule qui puisse absolument arriver à bon port au détriment des autres formations politiques. Alors, maintenant, il est démontré que le CNDD-FDD a alimenté ce coup de Mutuong. Et malheureusement, ce sont des militants des Burundais aujourd'hui qui en payent les frais, ce qui est malheureux, parce que les parents, ce sont ceux qui deviennent malheureux, parce que leurs enfants sont utilisés pour des sales besognes. J'en profiterai justement pour adresser les condoléances aux familles qui perdent chaque jour les leurs pour des raisons politiques, pour des raisons de manque de confiance entre les formations politiques, et ils deviennent victimes de cela, de cette intolérance. Alors, moi je dis que la jeunesse de ce NDD-FDD enrôlé dans les Imbonerakure doit comprendre qu'aujourd'hui, ils peuvent être utilisés, ils sont utilisés, c'est pas pour la première fois d'ailleurs, dans des salles de zone, et s'ils sont victimes de cela, ils doivent se rendre compte qu'ils ont pris une fausse route. Ils doivent aujourd'hui s'adresser à leurs responsables et leur dire, est-ce que vous acceptez le multipartisme ou vous ne l'acceptez pas? Si vous l'acceptez, laissez-nous tranquilles, faites à nos activités, nous avons des familles, au lieu de se laisser entraîner, moyennant un peu de somme modique, et se lancer dans des situations qui leur deviendra difficile dans l'avenir. Ils sont des jeunes aujourd'hui, mais d'ici 20 ans, 30 ans, ils ne seront plus des jeunes, ce seront des vieux. Ceux qui ne seront pas morts, justement, vont être accusés par les citoyens présents autour d'eux. Ils leur diront, voilà le fils de terre qui se comportait comme ça il y a des années. J'imagine celui qui s'est comporté dans les années 70 comme ça, aujourd'hui, quelle est sa situation? Il a des problèmes de pouvoir s'intégrer dans la société parce qu'il est toujours pointé du doigt. Et je crois qu'aujourd'hui, cette violence n'a d'autre signification si ce n'est qu'une expression de peur. Et au niveau de la Sepor Arusha, nous avions toujours eu à nous exprimer sur de telles élections parce que ces élections n'ont pas été préparées sur le plan légal, compte tenu de la Constitution, compte tenu du Code électoral. Parce que la Constitution montre clairement comment seront gérées les institutions qui vont être issues de ces élections. Au niveau de l'Assemblée nationale, comment des lois vont être votées par une minorité, donc qu'un parti ne pourra pas manquer s'il a gagné les élections, donc il n'y aura pas de minorité de blocage. Donc la question n'est pas seulement, la question de savoir est-ce que réellement le chef de l'FDD accepte son liberté partisane. Je crois qu'il accepte de faire ça, et c'est un parti. État, c'est un parti unique, seulement, qui doit quand même se faire bonne conscience dans un multipartisme de façade où il y a des partis politiques et qui sont toujours caressés pour qu'ils puissent accepter de jouer avec le CNDD. Je crois que c'est cela qu'il y a. Et si on observe, si on étudiait à fond, on faisait des enquêtes à fond, on constatait que chaque parti. Dans chaque parti, il y a des antennes du CNDD-FDD, qui t'acceptent justement le CNDD-FDD puisse avoir tous les partis politiques et les influencer et maintenant être tranquille en disant j'ai gagné les élections dans le multipartisme, alors qu'en réalité, il n'y a pas de multipartisme. Il y a un problème de fond qui est posé, ça veut dire le CNDD-FDD ne veut pas faire des élections, ne veut pas accepter qu'il y ait un autre parti qui vienne gérer l'État. Je crois qu'ils devraient prendre en accepter d'autres partis politiques qui viennent s'essayer comme ils peuvent essayer et qui n'a pas réussi. Les banques, on ne peut pas gérer pendant 15 ans et faire arriver un pays là où il est aujourd'hui et prétendre qu'on a bien géré l'État. Ils devraient quand même être sages et accepter qu'il y ait d'autres qui puissent essayer pour que le Burundi puisse sortir de son bourbier dans lequel nous sommes. Ça fait plusieurs décennies.
Pacifique Ninaze se dit inquiet de l'issue de ces élections au regard des violations des droits de la personne humaine qui continuent sans relâche.
Ces violations graves de droits humains à la veille des élections sont des signes extrêmement inquiétants sur le processus électoral. Il est clair dans cette situation que le régime a peur qu'il voudrait empêcher les candidatures de certaines personnes ou même faire peur à la population de Bujumbura Rural, qui est le fief du parti CNR, le fief d'Agathon Rwasa. Il est possible que ce régime veuille empêcher probablement les élections dans cette province ou tout au moins empêcher la participation des militants du parti CNR dans cette élection. Ce sont des signes extrêmement graves. Il faut que tous les acteurs essaient d'empêcher cela. Il faut que le régime comprenne qu'en jouant avec ça, il joue avec le feu. Les élections ont souvent été entachées de violence au Burundi et les élections ont parfois entraîné une guerre civile au Burundi. Il faut faire attention avec ce jeu massin. Donc à tous ceux qui suivent la situation au Burundi, que ce soit des organisations internationales de droits de l'homme, que ce soit des partenaires du Burundi, mon appel c'est le même, c'est de suivre de près cette situation, c'est de dénoncer ces situations, ces violations graves de droits humains, c'est aussi de donner un message clair au régime de Bujumbura, de Gitega plutôt, et de lui dire que ceci est inacceptable et que même ceux qui veulent se faire élire pourraient être mal élus, voire leur élection n'est pas reconnue par tout le monde si des situations semblables devraient perdurer dans plusieurs points du pays. Donc, je voudrais aussi lancer le message d'ailleurs à des gens, aux gens du CNDD-FDD. S'il veut gagner une élection, s'il veut avoir une élection crédible, s'il veut être respecté à la fin d'une élection, il faut justement éviter ce genre de pratiques, ces violations extrêmement graves de droits humains.
Face à la sécurité d'insécurité toujours grandissante, la CFO Arusha appelle la facilitation dans le conflit burundais à relancer les négociations interburundaises pour ramener la paix et la sécurité au Burundi.
Oui, nous continuons toujours à montrer ce qu'il faut faire, même si les gens veulent faire ce qu'ils veulent faire, alors que en réalité, les gens essayaient de ne pas voir la réalité en face. Moi, j'ai démontré ce qu'il y a comme constitution, ce qu'il y a comme texte, comme code électoral, ce qu'il y a comme sécurité, ce qu'il y a comme intolérance politique. Mais maintenant, est-ce que si on se lance dans ces élections, on va avoir des résultats? Les institutions qui vont sortir de ces élections vont être gérées comme le décrit la constitution. Alors, maintenant, vous allez dans une course tout en sachant que ce qui va sortir va être géré autrement par rapport à ce que veut la population. Le peuple burundais n'a plus besoin de demander d'une telle constitution. Il a besoin d'une constitution telle que la constitution de 2005, pratiquement qui garantissait le vivre ensemble. Et aujourd'hui, on voit que ce vivre ensemble n'est plus là et il y a de l'exclusion dans cette constitution. Et s'il y a de l'exclusion, ça signifie que, en réalité, il va effectuer une constitution conflictuelle et qui va nous mettre sur le terrain, justement, encore une fois, des conflits. Et nous disons aux médiateurs de comprendre que avoir refusé, n'avoir pas réussi les négociations à Arusha, parce que le pouvoir refusait et que le même pouvoir nous force dans des élections n'est pas une solution. Voilà ce que nous voulions, nous signifier avant que ces élections n'aient lieu. Avoir refusé les négociations, c'est à ce qu'on puisse aboutir à une situation de remise en question de ce que nous sommes en train de faire, imaginer une transition en s'entrant sur une période, s'entrant sur une situation qui devait la gérer, dans l'optique de ramener d'abord la tranquillité dans les esprits, au lieu de continuer à se pourchasser. Entre les CNDD-FDD, les CNR qui se sont combattus même au niveau du terrain il y a un temps, ils devaient aujourd'hui une certaine acceptabilité, une certaine tranquillité dans les esprits des CNDD-FDD et des CNR pour que finalement il y ait la paix dans le pays. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et cette transition allait nous permettre d'avoir un petit programme pour l'entrée des réfugiés. Et il entrait tranquille. Aujourd'hui, on voit que celui qui entre, ou bien l'autre personne, et quand il tente de rentrer, il n'est pas accepté de rentrer chez lui. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même un problème de fond qui se pose sur le terrain. En autre fait, si nous ne trompons pas, justement, nous nous disons, monsieur le médiateur, la solution, si les gens vont aux élections et qu'il y a insécurité, n'allez pas dire que le CFOR n'a pas crié à temps. Donc, nous sommes en train de crier à temps que les gens veulent nous comprendre, qu'ils nous comprennent, Et de toute façon, nous aurons exprimé ce que nous voyons, ce que nous avons observé, ce que nous croyons. Voilà notre propos. Voilà donc les élections, telles que sont organisées depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. On comprend qu'il y a des problèmes qui se posent parce qu'il y a de la méfiance, il y a des massacres, il y a des simulacres, des attaques pour que justement on puisse pratiquement refuser à celui-là ou celui-là de faire partie de la campagne parce que justement l'acteur principal qui s'appelle le CNDD ne veut pas qu'il y ait une élection saine et les Burundais doivent se dire que c'est l'affaire des Burundais, que les Burundais n'aient pas peur, qu'ils continuent, qu'ils exigent que la loi soit à respecter et qu'ils observent les urnes depuis le matin jusqu'au soir, qu'ils aient tout compté pour qu'il y ait une comptabilité et de la CENI, ou la comptabilité de chaque parti politique, et que les états majeurs des partis politiques puissent apprécier si leurs chiffres correspondent aux chiffres de la CENI. Je crois qu'avec cela, on pourrait prétendre que ces élections peuvent nous aider peut-être à arriver à quelque chose. Et si c'était cela, et qu'il y ait de la paix dans ces élections, que ces élections se déroulent en toute tranquillité, que là, au niveau de la CFO, nous serions contents parce que ça aura été un point marqué. Mais exprimer des inquiétudes, c'est aussi notre droit.
Voilà, c'est par ces recommandations que nous allons pouvoir boucler la boucle de cette émission. On peut retenir que les cas de violence dernièrement intervenus dans les communes de Bujumbura n'augurent rien de bon pour une bonne tenue des élections et qu'il faut mettre les bouchées doubles pour que ces élections soient paisibles, crédibles et transparentes. Je m'en vais donc vous remercier vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci à nos invités Frédéric Bangunyumvira et Pacifique Nina Azoué. Merci également à Réveillé Bazikamwe pour la réalisation et à Lambert Niozima pour la bonne collaboration technique. Cette émission vous a été présentée par moi-même, Jean-Georges Kibogora. Restez branchés sur la radio Inzamba Arete Akawe, la radio que vous avez choisie. Au revoir.
Carrefour d'opinion. Carrefour d'opinion est une émission de la radio Inzamba qui donne l'opportunité aux gens de tous les horizons à présenter leurs opinions sur tous les secteurs de la vie nationale en vue d'une bonne résolution pacifique du conflit burundais. Carrefour d'opinion, bâtissons le Burundi.